Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Konnichiwa, Sakamoto Ryuichi desu. 皆様のラピドをご覧になっています。
Je veux utiliser les sons comme des objets, comme certains artistes utilisent des objets pour faire des collages ou autre.
C'est quelqu'un qui est capable de reprendre des petites comptines japonaises extrêmement simples, mais qui va les habiter avec un doigté hésitant, très fragile par moments. C'est beau à pleurer parfois.
J'ai jamais voulu être célèbre. C'était pas le but de ma vie.
It's like an accident.
C'est mais tombé dessus comme par accident, comme un accident de voiture.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours curieuse, toujours découvreuse, en format réduit, 42 minutes de radio sur la musique, en musique, et un hommage aujourd'hui, c'est la série musicale. Bienvenue. Cela va faire un an que Ryuichi Sakamoto nous a quittés. Immense pionnier. De lui, vous ne connaissez consciemment, en tout cas. Peut-être que cette mélodie que vous avez entendue au détour de ce générique concocté par notre réalisateur Colin Gruel, Merry Christmas Mr. Lawrence, issue de la bande originale d'un film culte de 1983, Furio, où lui-même était acteur aux côtés de David Bowie et Takeshi Kitano. Ce morceau extrêmement célèbre, samplé des milliers de fois. Vous le connaissez peut-être aussi, Ryuichi Sakamoto, comme l'un des membres du fameux Yellow Magic Orchestra, ce collectif de musiciens géniaux, surnommé les Kraftwerk japonais, que vous entendez ici. Et pourtant, même si vous saviez déjà cela, Ryuichi Sakamoto, c'est bien plus que cela. Autant influencé par Debussy et Bach que par la culture du jeu vidéo, c'est avec des machines qu'il entend faire de la musique lorsqu'il débute. Il est, on peut le dire aujourd'hui, le père d'une musique moderne japonaise à qui les compositeurs qui vont le suivre, et notamment ceux qui écrivent pour les animés, les mangas ou les films de Miyazaki, doivent tant. Mais il ne cessa toute sa vie de revenir à l'épure du piano seul. C'est le paradoxe et le mystère de Sakamoto. Sa musique, souvent trop expérimentale pour être jouée en radio, a toujours été de son vivant l'une des plus influentes au monde. Samplée par des rappeurs du Bronx dans les années 80, par PNL dans les années 2020, elle a joué un rôle presque aussi important dans la formation du hip-hop qu'elle a influencé la musique classique contemporaine ou le free jazz. Ryuichi Sakamoto, tout au long d'une vie qui a duré 71 années, n'a cessé de jeter des ponts, collaborant avec plus de 50 artistes, du violoncelliste brésilien Jacques Morellenbaum, à Youssou N'Dour, des pionniers des polyphonies corses renouvelées, aux pionniers de l'électro allemande, à Vanotto, depuis le Japon de l'après-guerre. Sakamoto a donc dialogué avec le monde entier, la modernité, mais aussi et surtout, sans doute, avec lui-même. Et quel dialogue passionnant, mystérieux et reconnaissable entre mille. Ryuichi Sakamoto, l'art du partage, c'est tout de suite sur France Culture. Mm. écoutez l'enchaînement de deux morceaux, Computer Games and Firecracker. Et on est en 1978. Et ce que vous écoutez ne ressemble à l'époque à absolument rien de connu. Pourquoi ? Parce que ce morceau et l'album dont il est issu est l'un des tout premiers au monde à utiliser le séquenceur musical Roland MC8 Microcomposer, qui va devenir l'un des séquenceurs musicaux les plus utilisés dans les années 80. C'est aussi le premier à utiliser les bruitages d'une technologie du divertissement qui, à ce stade, est toute nouvelle. J'ai nommé, évidemment, les jeux vidéo. À la manœuvre de ce morceau complètement fou, il y a trois Japonais de moins de 30 ans qui veulent changer l'histoire de la musique de leur pays, mais aussi changer le regard que les Occidentaux portent sur l'Extrême-Orient et ce Japon si fermé depuis la Seconde Guerre mondiale et que finalement l'Occident connaît très peu. L'album, en sus de ce double morceau, comprend d'ailleurs toute une série de références à l'orientalisme forcené et mal connu, et un titre, Mad Pierrot, qui dit très bien ce que le groupe doit à l'influence des fous furieux français de la nouvelle vague. C'est une réflexion, ce morceau, Firecrackers, Feu d'artifice, une relecture d'un morceau de 59 qui tente donc d'imposer le Japon comme un acteur crucial de la musique qui s'invente à la barre. Ces Japonais qui ont tous moins de 30 ans, il y a le producteur et bassiste Harumi Hosono, dit aussi Hari Hosono, et un batteur, Yukihiri Takahashi. Ils se sont alliés pour ce qu'ils pensent être un one-shot avec ce jeune joueur de piano, keyboard player de clavier, Ryuichi Sakamoto. Leur ensemble se baptise le Yellow Magic Orchestra, l'orchestre de la magie jaune, par opposition, en tout cas par tentative de s'éloigner ou de mettre à distance le concept très présent dans la culture japonaise de magie noire. Et qui est-il, ce Ryuichi Sakamoto ? À l'époque, il a déjà sorti un premier album en collaboration avec un pionnier du free jazz. Mais c'est surtout un jeune homme qui est le pur produit du Japon dans lequel il est né. Un Japon qui sort d'une guerre qu'il a montée contre le reste du monde et qui a vécu en vase clos pendant quelques centaines de siècles. Mais ce petit Ryuichi Sakamoto, lui, écoute et regarde ailleurs. Ses parents, éditeurs, cultivés, c'est son père notamment qui a publié Confession d'un masque de Mishima, livre crucial dans la culture japonaise. Ses parents le poussent à regarder vers le reste du monde. Il idolâtre déjà Nino Rota, dont il a découvert la musique dans le film La Strada de Fellini. Et on le met au piano à 3 ans. Ses maîtres s'appellent Bach, Liszt. Ses idoles, ce sont évidemment les Beatles. Qu'est-ce qui fait que le petit Ryuichi compose ? On ne sait pas, mais lui dit qu'il compose depuis aussi longtemps qu'il s'en souvient, même quand il enchaînait du Bach à longueur de journée. Et d'ailleurs, quand vous l'entendez ici, interpréter du Bach, dans le mi-temps de sa vie, vous reconnaissez déjà son style sakamotien. Qu'est-ce qui fait qu'il va devenir ce compositeur pionnier, capable d'aller sur tous les terrains, d'être emmené, de s'inviter ? Le tout dans la douceur et avec un style, une marque, un mystère qui sont toujours immédiatement reconnaissables, qu'on soit dans l'électro la plus truculente ou dans le piano le plus éturé. Lui raconte qu'il a vécu 3 chocs successifs dans l'adolescence. La découverte de Debussy, cet homme qui réinvente tout en matière de mélodie, d'accord. Et puis une conférence sur les gamelans balinais lorsqu'il est étudiant à l'Université des Arts de Tokyo. Ces percussions mélodiques modales dont les possibilités sont absolument infinies. Les Beatles, qui évidemment ont tout explosé. Même s'il maîtrise Bach, il le décide, il sera anticonformiste et il inventera une musique que le monde entier ne connaît pas, comme il le racontait d'ailleurs dans le nouveau rendez-vous sur France Inter en 2018.
Je
fais partie de la génération de mai 68. Moi, j'avais 17 ans. J'étais déjà un fan, un grand fan de Godard. Pierrot le Fou. J'étais très influencé par lui.
Much before I was influenced by Tarkovsky.
Même avant d'être influencé par Tarkovsky.
Yeah, so I was a kind of rebellion.
J'étais un rebelle, bien sûr.
Yeah, about anything, about.
Rebelle. Je me rebellais contre tout.
Political systems.
Contre le système. Educational systems. Contre le système éducatif.
Strongly insisted. So I was against the very rigid tradition of the Japanese society.
Contre la tradition extrêmement rigide de la société japonaise.
I was even against of using the Japanese traditional instruments.
Et j'étais aussi contre l'utilisation des instruments de musique japonais.
Because the Japanese instruments,
les instruments traditionnels japonais symbolisaient l'ancienne société japonaise, très centralisée.
À peine un mois après la parution de cet album collectif avec The Yellow Magic Orchestra, et ce titre, Computer Games Firecracker, qui va être un succès immédiat, non seulement au Japon, mais aussi aux États-Unis, Ryuichi Sakamoto fait paraître son album personnel, quoique, même s'il est personnel, on retrouve aussi la présence de Hari Sosono et d'une toute une série de collaborateurs, musiciens, amis, avec qui Ryuichi Sakamoto va continuer de dialoguer toute sa vie. Vous écoutez ici Thousand Knives. On l'entendait, Ryuichi Sakamoto déclarait son amour à Godard, à Tarkovsky. Les références sont extrêmement nombreuses dans sa musique, en l'occurrence Thousand Knives, un millier de couteaux. C'est la manière dont Henri Michaud décrit la sensation qu'il a lorsqu'il consomme de la mescaline dans son livre phare Miracle Misérable. Ryuichi Sakamoto qui impose son style dans cet album qui là encore fait vraiment casse toute une série de barrières technologiques en utilisant des machines que personne n'utilisait alors, en continuant à faire cette réflexion sur la manière dont les Occidentaux et le Japon regardent non seulement leur propre culture, mais aussi la révolution culturelle chinoise, qui évidemment impressionne beaucoup en ces temps-là. Ryuichi Sakamoto s'installe comme un pionnier de la musique, des accords. Ce qui est intéressant, c'est que Thousand Knives est un morceau qui sera immédiatement repris, samplé, avec lesquels les musiciens de son temps vont commencer et continuer à dialoguer tout au long du siècle. Lui-même va continuer à dialoguer avec sa propre œuvre après avoir été justement un anticonformiste qui rejette le Japon, sa musique traditionnelle, ses instruments. Ryuichi Sakamoto, en vieillissant, va souvent, parfois, au milieu d'albums toujours très pionniers, très expérimentaux, revenir, relire sa propre œuvre, souvent au piano seul. Et tenter de restituer d'une certaine manière ce rapport qu'il a avec ce Japon qui a tant changé depuis son enfance, le quartier de Nagano dans lequel il avait grandi à Tokyo, 10, 20 ans, 30 ans plus tard, n'a plus le même visage, la même saveur. Et c'est ainsi qu'en écoutant la version au piano de Thousand Knives que Ryuichi Sakamoto propose beaucoup plus tard dans la cinquantaine, on reconnaît quelque chose qui relève à la fois de l'invention constante et d'une très grande nostalgie aussi.
have been thinking about what music is for a long time.
Vous savez, ça fait longtemps que je réfléchis à ce que la musique est, depuis longtemps, depuis un demi-siècle maintenant.
I'm still thinking and asking myself.
Je suis toujours en train de m'interroger, de me demander qu'est-ce que c'est vraiment la musique.
Of course, nobody has an answer, or maybe.
Personne n'a de réponse, évidemment. Plutôt, chacun a sa propre réponse. Et aujourd'hui, il y a presque une nouvelle technologie qui surgit chaque jour. Les compositeurs, les musiciens adorent ça, explorer. Prenez par exemple Beethoven. Aujourd'hui, on le considère comme quelqu'un de très classique, même d'un peu daté. Alors qu'à son époque, le pianoforte était une technologie toute nouvelle et il a écrit 32 sonates pour cet instrument qui venait à peine de naître. Je suis sûre que Beethoven, s'il était vivant aujourd'hui, utiliserait beaucoup tout ce qui se fait technologiquement. Il composerait sans doute des symphonies en réalité virtuelle. Ce dialogue constant entre Ryuichi Sakamoto, sa volonté d'explorer, d'être pionnier à l'image d'un Beethoven. Tous les génies, même les plus datés, sont toujours des explorateurs, ont toujours cherché à inventer quelque chose, nous dit-il en substance, à la fois quand lui-même casse toutes les barrières, se saisit d'instruments nouveaux, mais aussi quand il revient sur son propre travail, ou sur celui de Debussy, à qui on l'a beaucoup comparé. Sakamoto est-il le Debussy du XXe siècle? Lui s'en défendait, même si on aime beaucoup cet hommage inouï. Sakamoto's Debussy, que vous entendez ici, une relecture, un remix de Prélude à l'après-midi d'un Faune, après les énormes succès du premier album de Yellow Magic Orchestra et de son premier album solo, Sakamoto persiste et signe. Et ce que l'on sait peu, ou en tout cas ce qu'on mesure peu, c'est à quel point sa musique, bâtie, construite depuis un Japon qui s'ouvre, qui se veut résolument ouvert sur l'extérieur, va compter dans l'histoire du free jazz, puisque beaucoup de Japonais pratiquent le jazz lui-même. On y reviendra après, sera très proche de la plupart des musiciens de jazz les plus importants de son temps, à quel point sa musique va jouer un rôle extrêmement important dans un genre qui commence à naître bien loin de là, aux États-Unis, dans le Bronx, où toute une série de rappeurs qui cherchent des bons samples s'approprient sa musique. C'est le cas de l'Africa Bambaataa, qui reprend son titre issu de son album B52 pour en faire l'un des premiers grands titres de ce genre naissant qu'on appelle tout simplement le hip-hop.
Party people, can y'all get funky? Suicide and force, can y'all get funky? The Zulu Nation, can y'all get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That bottom's getting so fucking hot, hit me. Yeah.
Africa Bambaataa and the Soul Sonic Force qui reprennent, qui samplent et en fait qui s'installent avec leur beat sur Riot in Lagos, l'un des morceaux géniaux de Ryuichi Sakamoto que lui-même va revisiter, qui sera samplé, remixé, repris par des groupes du monde entier. Il y a une autre personnalité phare de la musique afro-américaine qui flash, si on peut dire, sur la musique de Ryuichi Sakamoto et sur une musique un peu particulière, puisque c'est Behind the Mask, derrière le masque, l'idée de masque qui est un peu omniprésente et dans la culture japonaise et dans la la discographie de Sakamoto. Mais Behind the Mask, à la base, c'est un morceau instrumental qu'il avait composé pour une publicité pour la marque japonaise Seiko en 78. Un an plus tard, il la reprend avec le Yellow Magic Orchestra sur un album Solid State Survivor que les producteurs américains écoutent beaucoup tant ils ont compris que ce son invente vraiment des choses. Michael Jackson reprend cette chanson en 1982 en ajoutant des paroles, mais cela reste à l'état de projet car Sakamoto, lui, ne valide pas vraiment les paroles. Finalement, la chanson est retravaillée et elle sort en 2010 pour son premier album posthume. Michael, c'est vous dire l'influence du japonais. Certain, c'est qu'une fois lancé, Ryuichi Sakamoto ne s'arrête absolument plus jamais. Un album par an quasiment avec le Yellow Magic Orchestra dans les années 80, un album solo par an et des milliers de collaborations. Même si, on avait envie de vous donner à entendre une collaboration qu'on met peu en valeur et pourtant elle compte beaucoup, car dans la vie de Ryuichi Sakamoto, il y a une femme, Akiko Yano, qu'on adore ici, qu'on a souvent surnommée la Kate Bush japonaise. Elle est un peu à l'image du Yellow Magic Orchestra qui n'est pas que le Kraftwerk japonais, bien plus que ça. Écoutez-la ici dans une chanson qu'on adore, Michi de Batari, dans son deuxième album, sur un thème co-composé avec Ryuichi Sakamoto qui partage sa vie. Vous allez entendre ici les influences, la funk, le free jazz, la grande, d'une certaine manière, nouveauté du son qu'elle propose, et toujours derrière ses intentions mélodiques, ou en tout cas cet accent sakamotien qu'on adore. Des batteries issues non pas du deuxième mais du sixième album d'Akiko Yano. Vous l'aviez entendu, cette comptine japonaise qui s'est électrifié, qui s'est funkisé. Ici, vous allez reconnaître les premières notes et soudain l'arrivée d'un synthé fou et furieux. C'est Merry Christmas, Mr. Lawrence, issu de la bande originale du film Furio. On est en 1983. David Bowie, Takeshi Kitano, un camp de prisonniers et une histoire d'amour impossible. Le film de 1983 de Nagisa Oshima et sa bande originale qui deviendra une des plus célèbres de cette décennie, portée en partie par la voix sur certains titres de David Bowie qui est acteur dans le film, tout comme Sakamoto qui est présent dans cette fable, ce récit sur les relations culturelles mais aussi personnelles entre quatre hommes dans un camp de prisonniers japonais à Java pendant la Seconde Guerre mondiale et le visage en sueur de David Bowie qui reste inoubliable. Cette musique va beaucoup marquer, elle forme une forme d'étalon. C'est un peu dans ce style sakamotien que s'écriront toute une foule de bandes originales de films japonais mais aussi sans doute d'animés, de la culture du manga qui vont reprendre ces motifs japonisants. Et cette couleur de synthé, à la fois épurée, mélancolique et furieusement moderne. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si c'est l'une des chansons les plus samplées par tous les gens, rappeurs, musiciens, producteurs qui tentent de montrer qu'ils entretiennent un grand rapport avec la culture de l'anime japonais. Les derniers en date à l'avoir fait avec un retentissement énorme, ce sont les deux rappeurs français de PNL dans Kiki Chiki, qui est une réinterprétation, relecture quasiment littérale de Merry Christmas, Mr. Lawrence, qui reste la chanson la plus célèbre de Sakamoto contre son gré.
Y'a rien à faire, c'est comme ça. Moi ouais, je suis dans la vallée du rhume. Pierre sale, je construis la casa.
Forbidden Colors, c'est le titre évidemment de cette bande originale qui va faire de lui Sakamoto l'un des compositeurs les plus prisés de bandes originales de films. Il sera présent sur Snake Eyes de Palma, Talon Aiguille d'Almodovar. Omis à la fin de sa vie, il regrettait qu'on se souvienne de lui quasiment uniquement pour cette chanson un peu mélodique, un peu trop idiote au regard de l'extraordinaire travail de recherche qu'il a fourni tout au long de sa vie, car Ryuichi Sakamoto le disait, il n'était pas un homme de la mélodie, plutôt un homme de l'essai, de l'expérimentation, et notamment un amoureux du son plutôt que de l'enchaînement de notes, comme il le racontait dans un entretien aux Un Rock en 2019.
You know, any sound can be accepted in many ways, maybe limitless ways.
Vous savez, un son peut être perçu de tant de façons différentes. C'est infini ce que produit un son. Alors qu'une mélodie, c'est toujours une affirmation très forte qui va insister sur des sentiments précis, certaines émotions, qui va évoquer directement des souvenirs, des sentiments. C'est pour ça que le poids, en fait, de la mélodie est parfois trop lourd à porter pour moi. Alors que sur un son, vous pouvez projeter toute une série de sentiments, de sensations, C'est sans limite. C'est beaucoup plus libérateur pour moi. J'espère que les gens réussiront à plus s'intéresser au son. La musique de film, c'est un moyen génial pour moi de faire voyager ma musique, de la faire entendre dans le monde entier. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'écris tant de bandes originales. Bon, évidemment, pas uniquement pour ça. C'est aussi surtout la joie, l'excitation de travailler avec des réalisateurs talentueux. C'est pour ça que je fais ça. Et puis, il y a toujours un impact, un dialogue avec ma propre musique. Par exemple, travailler sur un film comme The Revenant a affecté, a eu une influence sur la manière dont j'ai conçu mon nouvel album, par exemple. Travailler avec un réalisateur comme Inaritu, qui a ce talent, qui a ce statut surtout, c'est génial parce qu'en fait, il veut imposer la musique de la façon dont il le fait dans ce film, de manière inconditionnelle, d'une manière non conventionnelle sur un film aussi énorme. C'est inhabituel et c'est très excitant. le dépouillement majestueux de la musique coécrite par Ryuichi Sakamoto, Bryce Dessner et le musicien Alva Noto pour le film The Revenant d'Iñárritu, qui a valu à Leonardo DiCaprio, seul dans la neige, son Oscar du meilleur acteur. Plutôt, vous entendiez Ryuichi Sakamoto évoquer justement cette fertilité du dialogue entre son travail sur les bandes originales de films. Juste avant, on entendait Bibo Noah Ozora, qui aura justement été repris par Iñárritu dans son film Babel, et qui donnera à ce morceau, sorti en 95 en collaboration avec un arrangeur brésilien qu'on aime beaucoup, un nouveau succès. Ryuichi Sakamoto, on aurait pu vous passer des milliers de morceaux composés tout au long de sa vie, ceux avec lesquels lui-même dialogue, comme par exemple le titre Casa, qu'il a justement réarrangé quelques mois avant de mourir pour en faire la bande originale d'un film, mais aussi ceux avec qui des musiciens du monde entier ont dialogué du vivant du compositeur, ou encore, comme c'est le cas aujourd'hui, dans le cadre d'hommage posthume, on avait envie de clore cette émission avec le groupe de free jazz français Asynchrone, qui sort un hommage à Ryuichi Sakamoto et sera en concert le 29 mars prochain au Café de la Danse. Ils reprennent ici Plastic Bambou, c'est l'un des tout premiers titres de ce premier album sakamotien, Thousand Knives. Écoutez comme ce free jazz totalement organique, pas un seul instrument électronique ici, convient bien. Plastic Bambou. Cette émission n'était qu'un très pâle reflet de l'immense carrière de Ryuichi Sakamoto qu'on vous invite à réexplorer à l'envi. Une vie entière n'y suffirait presque pas. Merci à Colin Gruel qui a réalisé cette émission, à Ludovic Auger qui était à la technique aujourd'hui, à Luc Vauvier qui m'a aidé à la préparer. N'oubliez pas, comme Akiko Yano le fait elle-même, de vous abonner au podcast de la série musicale sur toutes les plateformes, mais on préfère évidemment celle de Radio France. La semaine prochaine, on se retrouve dans notre format classique, une heure, et ça nous fait grand plaisir.